Le débat du jour.
Anne Souhaitemont.
Bonsoir, rebonsoir, bienvenue dans le débat de ce soir. Les taxis parisiens sont aujourd'hui en grève. Ils protestent une nouvelle fois contre la rude concurrence que leur imposent les VTC, les voitures de transport avec chauffeur, avec un ennemi numéro un ennemi symbolique, la fameuse ubérisation Uber. Un néologisme à la mode qui désigne le développement de l'économie dite collaborative grâce à la démocratisation du haut débit, des smartphones, de la géolocalisation. Nombreux sont les petits malins, c'est le terme qu'on entend parfois, à lancer des plateformes, souvent des applis, qui mettent en relation clients et freelance sans les intermédiaires classiques. C'est simple d'utilisation, c'est vrai, c'est moins cher et donc ça fonctionne. Uber, Airbnb, Blablacar, les domaines touchés par le phénomène sont aujourd'hui légion, formidable opportunité économique pour les uns. L'ubérisation en inquiète d'autres, à la satisfaction de la clientèle, ils répondent précarisation, voire fin du salariat. Alors l'ubérisation doit-elle être l'avenir de l'économie? C'est le débat de ce soir. Pour en parler, j'ai le plaisir d'accueillir dans ce studio deux invités. Jennifer Leblon, bonsoir.
Bonsoir.
Vous êtes membre de WeShare, qui est, me disiez-vous à l'instant, une communauté qui agit pour faire émerger une société collaborative. Bruno Teboul, bonsoir.
Bonsoir.
Vous êtes auteur d'Ubérisation, économie déchirée, qui est paru aux éditions Kawa. Vous êtes aussi enseignant-chercheur à l'Université Paris-Dauphine et puis vice-président du groupe Kérus, un cabinet de conseil en nouvelles technologies. Alors, je le disais dans l'introduction, l'économie collaborative a des avantages incontestables pour le client, en matière de tarifs, notamment aussi en qualité de service, parfois. Jennifer Leblon, est-ce qu'il s'agit pour vous d'une révolution économique ?
Alors d'abord, je voudrais préciser que Uber, c'est pas de l'économie collaborative. Aujourd'hui, les médias et ce mot d'économie collaborative a été vraiment trituré et tiraillé dans tous les sens. Uber, c'est de l'économie à la demande. Donc c'est la mise en relation grâce au numérique de deux particuliers qui peuvent se rencontrer sur un marché. Il n'y a rien de collaboratif, rien de contributif, c'est juste facilité par le numérique. Donc si parfois chez WeShare on peut parler d'économie collaborative...
Est-ce qu'il n'y a pas quand même quelque chose de collaboratif quand par exemple on peut noter son chauffeur, être noté aussi par son chauffeur? C'est là aussi qu'il y a cette notion qui intervient, non?
On est plutôt dans la notion de réputation et de irréputation, donc qui peut intervenir en ligne, que ce soit sur des plateformes collaboratives ou non. D'ailleurs, eBay n'est pas une plateforme collaborative et pourtant on note les vendeurs. Le Bon Coin est une plateforme qui n'est pas collaborative et qui met en lien les gens et il n'y a pas de notation et ça marche aussi. Donc oui, en fait, on a eu tendance à le faire parce que on met l'économie collaborative en lien directement avec l'économie du numérique. Mais toute l'économie du numérique n'est pas collaborative et Uber n'est pas de l'économie collaborative,
alors,
clairement.
Cette société collaborative que vous, vous essayez de promouvoir, est-ce que vous pouvez nous la définir du coup et est-ce que vous pensez qu'on est à l'aune d'une révolution économique?
Alors oui, pour le coup, ça, je peux vous répondre que oui. La définir, ça serait compliqué parce que c'est vraiment une société qui est en mouvance et notamment grâce au numérique qui aujourd'hui permet un peu à tout le monde de prendre le pouvoir de son business model personnel et de trouver les moyens de s'épanouir et de trouver un modèle économique. Après... Nous, WeShare, on n'a pas de définition parce que ça change tout le temps et des innovations collaboratives, contributives, il en arrive tous les jours. Oui, la révolution est là parce que contrôler Internet, contrôler le numérique, contrôler l'innovation et l'innovation technologique, c'est pas possible.
Alors, vous dites révolution, est-ce que vous arrivez à la chiffrer par exemple? Est-ce que vous avez des ambitions? Est-ce qu'on sait un petit peu ce que ça pourrait représenter?
Alors, il y a plusieurs études qui sont sorties. On parle de plusieurs milliards de dollars, etc. Après, je pense que la valeur aujourd'hui qu'on quantifie pas et qui est pourtant celle qui sera la plus importante, c'est la valeur sociale et la valeur de partage que ça va générer chez les gens. Aujourd'hui, on est, et on l'a vu dans toute notre actualité, en manque de sens, en perte de valeur. Et cette nouvelle économie, elle prône du sens et de la valeur, plus qu'un modèle économique de capitalisation à tout va.
Alors Bruno Teboul, vous avez un avis assez différent sur le sujet, assez tranché, cette société collaborative. Qu'est-ce que vous en pensez? Quel regard vous portez?
Je pense pas qu'il soit si différent. Alors, petite précision, effectivement, l'ubérisation a mis en lumière à la fois un phénomène et des sociétés qui sont, donc vous les avez citées, ces entreprises, ces startups qui forment plutôt ce qu'on pourra appeler un capitalisme des plateformes. Donc ce sont des plateformes qui ont et qui ne cessent finalement, si vous voulez, malgré tout, de générer entre guillemets de la valeur pour elles-mêmes, ou si ce n'est de la valeur actionnariale, et qui ne sont pas du tout, qui ne s'inscrivent pas dans une démarche, comme le disait Jennifer Leblon, dans une démarche d'économie, pardonnez-moi, collaborative ou d'économie de partage. Ça d'abord, je pense qu'il faut faire vraiment une distinction entre l'économie dite collaborative, l'économie de partage, au sens où WeShare l'entend, c'est-à-dire effectivement une économie contributive qui génère ce qu'on appelle des externalités, je vais expliquer, positives, c'est-à-dire que cette même économie, elle tape sur ce qu'on appelle les communs, elle permet effectivement, autant que faire se peut, je dirais, de produire le moins d'effets dévastateurs à la fois sur l'humain, la nature, etc. C'est ça les externalités plutôt positives, ce qui n'est pas le cas aujourd'hui de ces acteurs comme Uber qui ne représentent en rien, si vous voulez, une économie solidaire et sociale. Donc il faut vraiment faire la distinction entre l'économie des plateformes, la plateformisation de l'économie, ce capitalisme de prédation qui est un hypercapitalisme. Encore une fois, ces entreprises sont survalorisées, hyper financiarisées. C'est des entreprises qui sont valorisées plusieurs dizaines de milliards, vous le savez sans doute, mais qui pour autant perdent de l'argent de manière abyssale. Uber, c'est complètement indécent, c'est des milliards de dollars de valorisation, à peu près 50 milliards aujourd'hui, pour des pertes d'un peu plus d'un milliard de dollars. Mais quelle est l'entreprise, pardonnez-moi, en France ou en Europe, qui supporterait de telles pertes et qui existerait encore, qui ne serait pas tombée sous le coup du tribunal de commerce? Aucune. Donc c'est impensable. C'est une économie qui ne tient pas, qui n'est pas solvable. C'est un modèle impossible et impensable, encore une fois.
Mais alors, aujourd'hui, vos critiques, là, donc c'est porte sur la valorisation, notamment. Je voudrais qu'on aille
sur le modèle économique.
Je voudrais qu'on aille aussi sur cette notion d'emploi, puisque c'est un peu une des grandes questions. On sait que, par exemple, le ministre français de l'économie, Emmanuel Macron, a beaucoup misé sur, alors au sens large, le numérique, effectivement, en disant que ça pouvait être un levier. Alors, Jennifer Leblon, est-ce que vous pensez qu'effectivement, le futur, la reprise de la croissance, elle se situe dans ce secteur pour la France?
Je viens de lire un article sur le sommet de Davos, qui vient de se terminer, et où ils ont publié une étude sur l'emploi. Ils disent que donc cette étude déclare que dans 10 ans voire dans 5 ans plus de la moitié des métiers qu'on fait aujourd'hui n'existent pas encore. Et que il va y avoir à peu près une perte sèche de 5,1 milliards d'emplois entre ce qui va être créé par le numérique et ce qui va être perdu dans l'économie traditionnelle. Donc évidemment, le numérique et cette nouvelle économie, c'est une source d'emploi hyper importante, mais peut-être pas au sens de l'emploi traditionnel comme on le connaît encore aujourd'hui, et qui finalement est un modèle qui ne tient presque plus, ou qui a du mal encore à tenir, et dans lequel finalement toute la nouvelle génération, tous ces jeunes entrepreneurs, toutes ces personnes qui décident de se lancer en indépendant, ne se retrouvent pas du tout, et qui décident de créer par eux-mêmes un modèle économique et un métier, un emploi, dans lequel ils retrouvent valeur, sens et économie.
Bruno Teboul, vous avez cette même crainte, celle d'un équilibre négatif entre la création d'emplois et la destruction d'emplois?
Moi, j'utilise une expression que je vais essayer d'expliquer simplement. Après les grandes théories, entre guillemets, qu'on a sans doute un peu trop adulées autour de la théorie de la destruction créatrice de Schumpeter, qui explique qu'effectivement, tous les processus d'innovation sont cycliques et vont détruire des emplois, puis en recréer dans d'autres secteurs, effectivement, comme on l'a vécu avec les deux premières ou les trois premières révolutions industrielles. Aujourd'hui, la donne est un petit peu différente. On est dans une période, malheureusement, je vous donne des éléments de macroéconomie, c'est important, de stagnation de la croissance économique. Malheureusement, la démographie elle-même est en déclin. Donc tous les facteurs qui faisaient que la théorie de Schumpeter pouvait, entre guillemets, se révéler d'actualité, donc se révéler efficiente, ne se vérifie plus. Ce qui permet finalement à Oxford, MIT, Roland Berger, l'étude que vous citiez, donc qui a été mise en lumière à Davos du World Economic Forum, estime qu'à l'horizon de 10 ans, environ 42 à 47% des jobs seront automatisés, donc supprimés par les avancées spectaculaires de l'intelligence artificielle. Donc, moi, ce que je vois derrière, si vous voulez, ce phénomène...
Mais alors, est-ce qu'il y a d'autres jobs qui vont être créés?
Bien sûr.
C'est toute la question, évidemment.
Il y a des jobs qui vont être créés, mais on assiste à ce qu'on appelle une hyperpolarisation de l'emploi, c'est-à-dire que vous imaginez un axe horizontal et deux courbes, l'une qui va monter vers les cieux, au-dessus de l'axe horizontal, et puis une autre qui est celle des emplois peu qualifiés, peu diplômés, qui va s'effondrer, parce que malheureusement, aujourd'hui, avec l'accélération des cycles d'innovation qui sont ce qu'ils sont, c'est-à-dire qui exigent aux gens d'avoir un niveau scientifique et technique pour s'adapter à ces mutations de plus en plus importantes, on va avoir des laissés pour compte qui, au départ, étaient les cols bleus, les gens qui voyaient finalement à l'ère de la tertiarisation, de l'économie du tertiaire d'aujourd'hui, qui détruit finalement des emplois, on va dire peu qualifiés, peu diplômés, sont en train de grignoter des emplois dits de col blanc, des emplois de classe intermédiaire, et donc on parle, nous, de mécanisation du cognitif, c'est-à-dire que même les tâches entre guillemets qui pouvaient être codifiées par la machine mais qui n'étaient pas on va dire jusqu'à présent mises en œuvre dans des entreprises, vont l'être de plus en plus grâce au développement de l'intelligence artificielle. Qui seront les gens capables de développer ces intelligences artificielles, entre autres pour parler simplement, de les maintenir, de les contrôler, de les monitorer? Peu de gens. Ce ne sont pas des millions d'emplois, encore une fois j'insiste là-dessus, qui seront créés, mais quelques milliers d'emplois hyper qualifiés, hyper diplômés.
Alors Jennifer Leblond, sur cette question, j'imagine que vous y réfléchissez, puisque vous faites la promotion de cette société collaborative. Qu'est-ce que vous répondez à ceux qui vous disent « attention, ça va détruire plus d'emplois que ça ne va en créer » ?
D'abord qu'on n'a pas la réponse, parce que c'est assez compliqué de se projeter quand on nous dit qu'on sait déjà pas aujourd'hui quels seront les emplois à 5 ans, quels seront les types de métiers, donc c'est quand même difficile. Après, je nuancerai quand même ce qui a été dit, parce que en fait, nous, ce qu'on voit émerger dans notre collectif, on est quand même très nombreux à travers le monde, c'est que en fait, les gens en ont marre de l'aliénation à la machine. Et que aujourd'hui, il y a quand même, même si évidemment les GAFA sont hyper puissants, il y a quand même beaucoup de gens avec des niveaux de culture, des niveaux de raisonnement et des niveaux de technicité très importants qui refusent quand même ce modèle que GAFA nous impose, puisque voilà, aujourd'hui vous êtes sur Google, bon c'est tout, de toute façon vous lui appartenez, si c'est gratuit c'est que c'est vous le produit. Et en fait, vraiment, nous, on voit une mouvance se développer autour du retour à comprendre. Du coup, tous les métiers autour de comprendre ce qu'il y a derrière la machine du numérique, c'est, on voit par exemple l'État qui veut démocratiser avec le lancement de la grande école du numérique, des initiatives comme Simplon, que vous connaissez probablement, qui apprend aux jeunes des quartiers à coder pour devenir des codeurs et pouvoir décrypter les machines.
Redevenir un peu le maître, en fait.
C'est que,
et
voilà.
Est-ce qu'il n'y a pas aussi la notion de redevenir son propre chef?
Je sais pas si ça va forcément si loin pour tout le monde, mais il y a une notion de, comme aujourd'hui, les gens qui sont censés nous donner le sens et nous donner la direction ne nous la donnent plus. Les gens vont la chercher par eux-mêmes. Donc soit ils trouvent des collectifs, soit ils trouvent, et puis sur Internet aujourd'hui on peut vraiment tout trouver, soit ils trouvent des associations, soit des personnes qui vont leur redonner du sens, ou eux-mêmes ils vont se redonner du sens. On est nombreux chez WeShare à trouver du sens chez WeShare, mais à avoir plein d'activités par ailleurs pour se donner son propre sens.
Bruno Teboul, pardon, est-ce que vous craignez la fin du salariat, une extrême freelancisation, puisque c'est vrai qu'on pourrait, par exemple, je sais pas moi, être le matin chauffeur de Uber, l'après-midi louer sa perceuse. On peut avoir plusieurs métiers dans ce genre de secteur aujourd'hui sans avoir plus de contrat de travail.
Ce qui est certain, c'est que le travail évolue et les formes d'emploi évoluent. Mais je vous le disais, on malheureusement, comme on assiste, si vous voulez, une progression, pardonnez-moi, du chômage qui est constante, on ne peut pas imaginer, si vous voulez, que les emplois salariés viendraient à se développer ou en tout cas connaîtraient une progression spectaculaire. Néanmoins, il se crée, vous le disiez, des formes de travail rémunérées qui ne sont plus des emplois salariés. Donc effectivement, il se crée des poches de valeur, il se crée de nouvelles formes de travail rémunérées, encore heureux, mais pas seulement. Justement, il y a un phénomène qui est assez intéressant et vous l'avez peut-être juste effleuré, concernant les GAFA. Lorsque vous utilisez, il y a un concept intéressant qui s'appelle le digital labor, lorsque vous utilisez Facebook, toutes ces plateformes comme Google, vous produisez effectivement une forme de richesse. C'est ce que vous disiez, si effectivement vous participez activement au développement de ces plateformes sans être rétribué, vous en êtes en quelque sorte un peu asservi et du coup se développe beaucoup de collaborations finalement indirectes autour de ces plateformes qui ne sont pas rémunérées. C'est le concept de digital labor. Donc on assiste à davantage de formes de précarisation de l'emploi d'une part, deuxièmement effectivement de l'intermittence plutôt généralisée et de la pluriactivité, c'est ce que vous décriviez, c'est-à-dire que beaucoup de gens et beaucoup de jeunes, hein, les générations notamment Y et Z, sont plutôt enclins malheureusement à rencontrer à la fois une multitude d'entreprises dans leur carrière, mais surtout d'épouser une multitude de métiers, et donc d'avoir diverses formes de rémunération qui ne sont pas forcément des rémunérations salariées.
Et alors, est-ce que le droit du travail aujourd'hui est suffisant en France ? Ça pose évidemment la question du rôle de l'État. Jennifer Leblond, quel rôle doit avoir l'État ?
Alors, pour avoir beaucoup échangé avec notamment le cabinet d'Axel Lemaire, hein, qui se pose beaucoup de questions, donc pas du coup sur la partie fiscale.
Secrétaire d'État au numérique.
Secrétaire d'État au numérique, voilà. Donc pas sur la partie fiscale, mais sur la partie numérique et législation. Ça se tend parce qu'il y a le besoin quand même de formaliser une législation qui permet, si on prend par exemple un exemple qui, enfin si on prend une activité qui a été légalisée, qui fonctionne bien, c'est le crowdfunding, le financement participatif. C'était un ovni. Et puis c'est devenu légalisé dans un schéma légal plus traditionnel, et ça continue de se développer et ça marche très bien. D'ailleurs, Kickstarter est arrivé en France au mois de mai dernier et il n'y a pas de problème législatif sur l'activité de financière. Et après, sur d'autres structures type Airbnb, etc., ça arrive, hein, on voit là...
On voit bien, à Paris, par exemple, une régulation qui est venue par la mairie de l'utilisation d'Airbnb. Et puis, évidemment, on a commencé par Uber l'émission, on va peut-être finir par Uber. Comment réguler, est-ce qu'il faut réguler l'activité, encore plus réguler l'activité des Uber, Bruno Tebboune ?
Je crois qu'il ne s'agit pas d'encore plus réguler, il s'agit de réguler. Mmh. Il s'agit de faire respecter les lois dans un pays qui est un état de droit, qui est la France, à l'échelle même européenne. Ça concerne plusieurs États membres aujourd'hui, c'est ces problèmes que posent les sociétés de VTC, pour ne pas parler que d'Uber, puisque malheureusement d'autres sociétés sont très controversées aujourd'hui. Donc je pense qu'il va falloir déployer des efforts à la fois pour codifier, vous avez raison, l'emploi, protéger notamment des catégories de type indépendant, auto-entrepreneur, qui n'ont pas de lien de subordination avec une plateforme ou un employeur qui serait une plateforme, mais des liens de dépendance économique. Donc là, il y a un petit vide juridique qu'il va falloir rapidement combler.
Concrètement, là, si Emmanuel Macron, Emmanuel Valls étaient avec nous dans ce studio, vous leur diriez qu'est-ce qu'il faut faire ?
Je pense qu'il sait ce qu'il faut faire. Il faut faire évoluer en partie le code du travail sur ces sujets-là, protéger des catégories de travailleurs qui ne sont pas protégés, qui ne sont pas représentés d'un point de vue du paritarisme, d'un point de vue syndical, par exemple. Ça existe aux États-Unis, ça existe en Allemagne. Il y a des gens qui aujourd'hui se mobilisent, se regroupent autour de d'initiatives, effectivement, de syndicales, qui permettent aujourd'hui de faire valoir leurs droits à ces mêmes plateformes. Donc, je pense que la première mesure, c'est effectivement d'identifier les catégories de travailleurs un peu vulnérables d'un point de vue de la dépendance économique. Et puis après, il va falloir aussi réfléchir. Alors, on n'a pas parlé de fiscalité, mais la fiscalité est un point essentiel. Il faut que les GAFA et les autres natus, hein, pour ne pas les citer, puissent demain s'acquitter des taxes et effectivement des impôts qu'elles doivent à l'État français et à l'Europe. Sinon, on ne pourra jamais financer, je terminerai là-dessus, à mon avis, tous les emplois qui vont être ubérisés ou en tout cas qui seront supprimés par l'automatisation, ça va concerner des gens qui ne seront pas en mesure, encore une fois, d'arriver à un niveau de qualification et de diplôme suffisant pour travailler à l'horizon de 10 ans. Donc nous, on est plutôt partisans de la mise en place d'un revenu d'existence, d'un revenu contributif, peu importe les variantes, mais dans un modèle plutôt progressiste qu'ultra-libéral, parce que les deux idées sont défendues aujourd'hui. Et pour financer un tel revenu, alors en 2011, il y avait eu un projet, un amendement à une époque qui devait être voté, qui a été retoqué par la ministre Pécresse de l'époque. Je pense que c'est à remettre au goût du jour et je proposerai bien volontiers à monsieur Manuel Valls de réfléchir sur une proposition concernant le revenu d'existence également.
Eh bien, on espère que le Premier ministre nous aura écouté ce soir. Merci beaucoup à nos deux invités. L'émission est déjà terminée. Jennifer Leblond, qui est donc membre de WeShare, une communauté qui agit pour faire émerger la société collaborative. Merci également à Bruno Tebboune, l'auteur de Ubérisation économie déchirée, paru aux éditions Kawa, enseignant-chercheur à Paris Dauphine et vice-président du groupe Kérus. Merci également à Florence Ponce et à Hélène Avril pour la réalisation et la préparation de cette émission. On se retrouve demain. La France peut-elle retrouver sa place en Iran ? Pour l'instant, c'est le journal En français facile avec Sylvie Berruet.